Bonsoir. Le gouvernement actuel de la République démocratique du Congo a totalisé mercredi une année d'activité depuis son investiture par le Parlement le 26 août 2019. Selon le porte-parole du gouvernement qui a organisé une conférence de presse pour présenter à la nation le bilan que le gouvernement Ilunga Ilunkamba fait lui-même de ses 12 premiers mois de travail, des avancées ont été enregistrées, mais des défis énormes restent à relever, parmi lesquels la paix qui n'est pas encore totale, les besoins sociaux de base de la population pas entièrement satisfaits, le chômage encore endémique, la stabilité de la monnaie qui reste toujours une quête. Le consensus sur les réformes électorales en RDC toujours en débat. Le groupe de 12 personnalités qui consultent depuis quelques semaines sur ce sujet continue son travail, mais le forum de haut niveau de l'Université de Liège de Belgique avait démarré lundi, a immédiatement été suspendu mardi par l'organisateur faute d'inclusivité. Les familles politiques de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila ne se sentent pas concernées par cette initiative de l'Université de Liège. Le FCC, par exemple, explique que les questions en rapport avec les réformes électorales doivent être débattues dans un cadre purement institutionnel pour y prendre part. Pour aborder toutes ces actualités, nous serons ce soir avec Jean-Pierre Kayembe, gestionnaire de médias et producteur de contenu médiatique. Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir, Donat. Je précise que je suis cofondateur du site 24H.cd et militant anti-balkanisation. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs qui nous suivent particulièrement à les communes de Ndesha et Lukonga dans la ville de Kananga au Kasaï central.
Bien dit. Alain Botoko, bonsoir.
Bonsoir Brinel, bonsoir Jean-Pierre Kayembe et à toi-même Donat et à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
Alain Botoko, vous êtes journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa. Et enfin, Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision émettant de Kolwezi, province du Lualaba. Brunel Kachi, bonsoir.
Bonsoir, merci cher confrère. Je tiens à préciser ou une petite rectification. Je suis journaliste actuellement à Yalisadou Radio, chaîne privée émettant dans la province du Lualaba.
Merci Brunel pour ces ajouts. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Jean-Pierre Kayembe, à ce stade de l'émission, votre commentaire libre.
Merci de la parole que vous m'accordez. Mon commentaire libre porte sur les sujets que nous avions évoqués la semaine passée sur Radio Capi. Je crois que notre coup de gueule a été entendu par les autorités qui ont mis les moyens, qui ont tout mis en œuvre pour démanteler le groupe politico-mafieux d'Ibilanga qui opérait à la frontière de Kasumbalesta. Le sulfureux Tshiswaka a été démantelé avec ses lieutenants, il est en fuite. Et nous en appelons à ce que l'on ne s'arrête pas à mi-chemin, que des enquêtes soient menées, que Tshiswaka soit retrouvé, qu'il soit déféré devant son juge naturel, pour qu'il dise à la justice avec qui étaient ses complices, tout l'argent qu'il a perçu, des taxes qu'il a empochées indûment, qu'est-ce qu'il en a fait, et qu'il rende en effet à la République ce qui lui revient des droits.
Merci Jean-Pierre Kayembe. Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa, votre avant-goût informationnel.
Oui, Donat, moi je voulais parler de ce plan d'aménagement qui a été adopté par le gouvernement il y a quelques jours, je crois la semaine dernière, et les tollés que ça a provoqué auprès de la société civile environnementale. Et je crois que la société civile a raison, pourquoi ? Parce que la loi organique qui organise les ASBL, les églises, mais aussi des ONG en RDC impose que, avant que le plan d'aménagement ou un grand plan pour le pays soit discuté au niveau du gouvernement, il faut associer la société civile. Pourquoi ? Parce que la société civile connaît beaucoup plus d'éléments que le gouvernement. Et je crois que Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, l'a dit clairement, il a dit, les nations qui veulent aller loin doivent associer la société civile, le privé et le gouvernement dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois, aménager un territoire, c'est l'élément le plus sensible dans la vie parce que c'est de là que peut découler un plan clair de développement durable. Et ce pays ici est très grand, comme le kilomètre carré le démontre. Nous avons autour de 2 millions et quelques 300 quelques 1000 kilomètres carrés. C'est énorme. Donc il faut aménager les villes, il faut aménager les villages, il faut aménager le secteur, les territoires, les quartiers. Et là, ça demande de l'intelligence. Et le roi Léopold II l'a dit à l'ouverture de la modernisation de l'université de Liège, que la nation qui va négliger la science et le savoir sera vouée à l'échec ou à la disparition. Donc je crois que ce sont des occasions qu'il faut associer le scientifique, les hommes de la société civile, l'État, pour pouvoir dégager un plan d'aménagement, parce que notre pays est trop stratégique pour le monde, mais aussi pour l'Afrique.
Merci Alain Botoko. Brunel Kachi, journaliste à Yalissa Télévision, émettant de Kolwezi, province du Lualaba. Votre commentaire libre.
Voilà, chers confrères, je voulais un peu commenter, disons, une petite actualité de cette semaine. C'était le mardi 25 août dernier que l'Union des jeunes Katangais a manifesté son mécontentement au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, où elle était partie déposer un mémorandum dans lequel elle était en train d'accuser les entreprises locales de toujours embaucher les personnes venant de l'extérieur de la province du Lualaba au détriment, bien sûr, des autochtones. Et cette délégation, qui a été conduite par son président provincial, Eli Kanteng, était en train de solliciter l'implication de l'Assemblée provinciale en sa qualité de l'organe délibérant pour intervenir, pour que cette classe juvénile puisse quand même également jouir comme tout autochtone considéré dans sa juridiction. Mais ce qui est vrai, chers confrères, les constats faits par nous sur terrain démontrent vraiment que les tonneaux, en tout cas, est à quelques mètres de cette province, parce que comment vous pouvez comprendre que la plupart d'offres d'emploi qu'on rend publiques, c'est juste une politique en quelque sorte de bonne impression, d'autant plus que le vrai recrutement lui-même a déjà été fait dans le noir. Ici, pour avoir un emploi pour les jeunes, il faut soit être neveu ou, je peux dire, cousin d'un politique aussi influent, ou être dans un parti politique pour être recommandé. En tout cas, trop c'est trop, je suis en train d'appuyer sévèrement ces jeunes et je suis en train de voir vraiment qu'ils ont compris qu'être souleveur puissant des drapeaux dans des partis politiques et derrière les politiques monarques qui n'ont rien de promettant. En tout cas, je vois quand même que c'est la reprise des consciences. L'éco est le seul patrimoine que nous avons tous en commun et tout le monde mérite les mêmes avantages et les mêmes, je peux dire, les mêmes traitements. Et qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions tous nous engager dans cette lutte pour que le Congolais soit vraiment valorisé, parce que nous sommes dans une juridiction où c'est les Chinois ou rien qui fait loi. Et les recrutements sont faits sur base, je ne sais pas moi, disons, des certains critériums que seuls les politiques eux-mêmes savent quoi imposer, quoi donner comme injonction pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. C'était quand même là la petite actualité que je voulais commenter sur le plan local, chers confrères.
Merci Brunel Kadji. De la petite, nous allons peut-être entrer directement dans la grande actualité nationale. Le consensus sur les réformes électorales en République démocratique du Congo, toujours en débat. Le groupe de 12 personnalités qui consulte depuis quelques semaines sur ce sujet continue son travail, mais le forum de haut niveau que l'Université de Liège de Belgique avait démarré lundi a immédiatement été suspendu mardi par l'organisateur faute d'inclusivité. Les familles politiques de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ne se sentent pas concernées par cette initiative de l'Université de Liège. Le FCC, par exemple, explique que les questions en rapport avec les réformes électorales doivent être débattues dans un cadre purement institutionnel pour qu'ils prennent part. Écoutons à ce sujet Kabata Kabamba sur les raisons de la suspension de ce forum, joint par Kéline Kouté.
Oui, il y a eu une demande expresse de participants qui étaient là, parce que tous ceux qui ont été hier ont envoyé leurs experts. Ils ont demandé qu'on puisse prendre la journée. Et comme la plupart des acteurs absents ont été consultés préalablement avant le début du forum, qu'on puisse retourner vers eux, parce que nous discutons dans la fraternité, en espérant, et nous le souhaitons, nous, capables certainement, espérant qu'on puisse reprendre les travaux avec la présence de tout le monde.
Jean-Pierre Kayembe, quelle est votre première réaction de tous ceux qui tournent autour de ce forum et de manière un peu plus globale sur cette problématique du consensus sur les réformes électorales en RDC?
Merci bien, mais je sais qu'à chaque processus électoral dans ce pays, nous avons toujours des réformes que nous entamons. Je ne comprends pas pourquoi celle de cette fois pose autant de problèmes. Je voudrais rapidement dire un mot sur le groupe des 13, enfin, ils ne sont plus qu'à 12 maintenant. Je crois que ce groupe est constitué, j'ai respect pour certains de ceux qui sont membres de ce groupe, mais la plupart, c'est des politiciens à mal des positionnements. Vous allez regarder que certains d'entre eux ont soutenu tel ou tel autre candidat, ils ne se sont pas retrouvés. Ils ont en vue qu'on aille à un énième dialogue pour qu'il en tire profit. Donc, je voudrais carrément dire que s'il s'agit de l'opportunisme politique, il n'y a rien de fondé dans leur démarche. L'autre démarche, c'est celle de Bob, le professeur Bob. Moi, j'ai pris l'habitude de le suivre sur vos antennes. Il est très bon quand il parle en tant que scientifique, mais bon, quand il mêle des considérations politiques, ça devient très, très compliqué. Mais surtout, moi, je suis nationaliste. Je demande à ceux qui nous suivent de suivre mes émissions sur le risque de balkanisation de notre pays. Moi, je ne peux pas accepter qu'une réflexion sur des élections congolaises soit financée, par exemple, par l'Union européenne. J'essaie de voir dans la démarche du professeur Kabamba un autre néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui, le citoyen congolais, bien qu'il soit naturalisé belge maintenant. Ce n'est pas ça qui intéresse, mais le fond. Ceux qui ont financé cette journée de réflexion, ces forums, s'attendent à quoi? Et je voudrais particulièrement saluer, s'il vous plaît, j'atterris, je voudrais saluer l'attitude des cadres du Front commun pour le Congo et ceux du CAS qui ont boycotté. À la place de Bob Kabamba, je serrai mes valises, je retournerai à Belgique. Et vous avez vu à la journée d'ouverture qu'on a eue, évidemment, l'image que nous a donné les élections de 2018, c'est-à-dire l'Église catholique et la Mouka d'un côté. Vous avez vu le bloc que ça donnait au jour d'ouverture. Ça voudrait dire que, moi j'ai toujours pensé que les multinationales qui n'ont pas réussi à imposer leur marionnette à la tête du pays en 2018, parce que les gens ne trompent personne, qu'on ne dise pas que M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui au pouvoir, est un candidat de l'Occident. L'Occident avait son candidat qui a échoué, et le fonds injecté pour la campagne de ce dernier, les multinationales n'ont jamais oublié, ils cherchent à tout prix à contrôler le processus électoral et par-dessus tout, arriver à imposer une marionnette. C'est que, moi je produis des émissions à téléphone ouvert, j'ai plusieurs fois soumis ce sujet à débat et j'ai vu que les Congolais ne sont plus disposés à écouter que ce soit l'Occident que des solutions congolaises viennent. La constitution que nous avons aujourd'hui vient de l'Occident.
Jean-Pierre Kayembe, voilà, puisque nous sommes dans le débat, hein, permettez que de temps en temps on se relance, hein, je ne vous coupe pas la parole, vous la gardez, mais c'est juste pour que justement on ait des relances pour mieux comprendre parfois l'évolution aussi de la pensée. Mais pensez-vous que ce qui dérange plus, c'est le financement européen ou, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés notamment par l'Occident sans que ça pose véritablement problème, mais ce qui, selon vous, poserait problème, c'est plus le financement ou le fait, peut-être, on a l'impression avec ce forum, qu'il n'y a pas eu de bonnes consultations en préparation de ce forum, que les gens n'ont pas été consultés à temps, leurs avis n'ont pas été demandés, et du coup, on leur impose des réflexions pour lesquelles ils ne sont pas d'accord ou dont ils ne sont pas prêts.
D'abord, il y a un problème de financement. Il n'y a rien pour rien. C'est lui qui finance, comme on dit, la main qui donne cherche à dominer.
Jean-Pierre Kayembe, je reviens vraiment sur cette autre préoccupation. Hein. Est-ce que le vrai problème, le fiasco, ce n'est pas plutôt que ça n'a pas été suffisamment bien préparé, que les poids lourds en question qu'on souhaitait avoir dans ce forum n'ont pas été consultés?
Mon problème, c'est que le forum ait été bien préparé ou pas, je ne conçois pas qu'une question aussi sensible comme celle-là soit traitée en dehors des institutions. Nous avons des institutions, un gouvernement fonctionnel, un parlement fonctionnel. S'il existe des questions qui divisent, comme depuis toujours d'ailleurs,
nous allons les traiter dans le cadre institutionnel. Où nous supposons, par exemple, au Palais du Peuple, que la population congolaise, dans sa majorité, y est représentée à la fois par des députés et des sénateurs. Et je ne conçois pas que Bob Kabamba, professeur utile, même si on sait que c'est un agent double, il roule, on sait que quel lien il a avec le ministère des Affaires étrangères.
Jean-Pierre,
et surtout quand on voit le rôle que la Belgique
Jean-Pierre,
a joué dans ce pays.
Ça, c'est votre intime conviction, n'est-ce pas?
Il me semble que les points de vue que j'ai mis ici, ils sont miens, donc ils ne sont pas vôtres. Mais ne vous inquiétez pas. Ça,
c'est. Jean-Pierre, on revient à vous tout à l'heure. Alain Botoko, ce forum qui a fait fiasco, commencé lundi, s'est arrêté le jour suivant, pour raison d'inclusivité. Quelle est votre lecture de l'université de Liège, représentée ici par le professeur Kabamba, qui est très bien connu dans les milieux politiques et accepté jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement ces propositions n'intéressent plus les gens?
Parfait. Je commence par là où tu viens de finir. Le professeur Kabamba, Bob Kabamba, c'est un homme respectable. Il a de bonnes analyses. Il a des analyses bien affinées. Mais aussi il est utilisé pour à des faits stratégiques hein, par son université et ceux qui sont derrière cette université. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau des lois de la nature. La nature, d'une manière générale, a ses lois et une des lois de la nature, c'est qu'elle n'aime pas les vides. Les vides, c'est lesquels? C'est ce tiraillement qui est entre le FCC et le CASH. Au lieu de diriger le pays comme il se doit, au lieu de discuter ensemble dans les coulisses, ils étalent leurs divergences aussi et aux vies de tout le monde. Et les autres, les gens de la Mouka, les autres qui veulent imposer leur loi au Congo en profitent et ils boutiquent ça. Je vais vous citer quelques exemples. Regarde à l'Assemblée nationale. Depuis quand une assemblée qui se respecte peut être dirigée sans un premier vice-président? Ça fait déjà des mois et des mois que Kabound n'est plus à la tête de la vice-présidence, de la première vice-présidence de l'Assemblée. Il n'est pas remplacé alors que tout était déjà fait pour qu'il soit remplacé par des émotions, par des sentiments et on bloque ce processus et il n'y a pas que ça. C'est peu que les informations que nous avons, le personnel d'appoint, le personnel politique n'a jamais été nommé par la dame. Pourtant, le Congo d'une manière, le Congolais d'une manière générale attendait que la dame vienne avec une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau pour pousser le pays à aller de l'avant. Et depuis que ce Parlement existe, combien de lois ont été votées? Ce sont des querelles entre eux, ce sont des disputes et tout le temps est consommé dans ça. Et les autres, ils se disent que c'est une bonne occasion. Regarde, même le départ de Kabound, qui a provoqué ça, c'est quelqu'un de il a été utilisé par une partie qui est en coalition au pouvoir. Mais ça ne s'explique pas. Et donc, il faut que le deux partis CASH et le FCC se réveillent et se disent, écoute, le pouvoir, on ne blague pas avec. Dépassons nos émotions, dépassons nos sentiments, girons le pays comme il se doit. Il y a des crises à gauche et à droite. Travaillons dur pour faire avancer le pays et les autres ne viendront pas intervenir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays qui fonctionne normalement, qu'il y ait des émissions qui viennent de notre pays, je ne sais pas qui qu'il soit, professeur, et donner les ordres pour un autre pays souverain comme comme le nôtre. Non. Et ça, c'est une réalité que nous faisons face. Et il n'y a pas que le FCC, regarde aussi le CASH. Depuis quand le ministre de l'Intérieur est installé et le pays sait que le président ne peut pas diriger le pays seul, il faut la petite territoriale. Il nomme personne, il ne fait personne, il regarde les Bougoumès, c'est le chef de secteur, les chefs de territoire qui sont là, ils avaient une autre idéologie. Il faut qu'ils aient une nouvelle idéologie pour pouvoir booster le pays vers le développement durable. Et il n'y a pas que lui, il y a le ministre, la ministre des Affaires étrangères. Depuis quand elle est là? Quand est-ce qu'il va proposer au président de nommer tous les ambassadeurs qui auront la vision du chef pour pouvoir montrer au monde entier ce qu'il faut, ce que le Congo aime et où est-ce que les gens peuvent venir investir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est ce vide-là
Alain
qu'on
Botoko.
Dirige le pays.
Oui, Alain Botoko, tout à l'heure, vous l'avez déjà souligné que le professeur Kabamba, c'est l'organisateur présenté de ce forum, est utilisé ou sur lesquels s'appuient les objectifs stratégiques étrangers. Mais avez-vous l'impression que pour ce cas précis du forum de haut niveau sur la réforme des élections, que son organisation ou sa personne a été utilisée en faveur exclusivement de la Mouka? Parce qu'on constate que tous les autres poids lourds ne sont pas là ou ne veulent pas être là, mais la Mouka a été entièrement représentée. Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Fayulu, Mouzito ont tous envoyé des délégués qui ont pris part et ont lu les messages de leurs leaders dans ce forum.
Mais c'est clair, ça saute aux yeux que le jeu n'est pas clair, que le forum est boutiqué, que il y a beaucoup d'autres enjeux qui dépassent les politiciens ici au pays. Partout au monde, ce sont les instituts de réflexion, ce sont les universités, ce sont le FIFINX aujourd'hui, le groupe de cerveaux qui réfléchissent, qui font avancer les choses dans les États. Mais ici, je crois qu'il y a l'absence de tout ça. Il faut réveiller la nation pour qu'on ait des groupes comme ça qui réfléchissent. Mais c'est aussi évident que le professeur soit aussi utilisé, peut-être qu'innocemment, sans qu'il sache qu'il est utilisé. Et ça peut arriver dans les bonnes intentions, parce que si la présidente Mabunda n'avait pas d'obstination à la personne de Malonda, si le parlement travaillait comme il se doit et qu'il y a des lois électorales à révision et qu'on a déjà toute la structure pour la CENI. Regarde aux États-Unis, à part la commission centrale qui organise, qui contrôle comment l'argent est dépensé de campagne, mais il y a chaque province, chaque État a son organisation, a son secrétariat qui est permanent toutes les années, qui travaille sur les élections. Parce que le pays doit être soutenu par la démocratie, par la République. Nous, et la démocratie, ce sont les élections. Il faut des lois claires pour ça. Et le président Tshisekedi a démontré qu'il veut un changement dans ce secteur, mais les autres sont en train de le bloquer.
Merci.
Et alors, à qui reprocher? À qui reprocher? Est-ce que c'est à Kabamba? Est-ce que c'est aux organisations occidentales ou aux autres forces occultes que nous ne maîtrisons pas? Moi, je pense que la faute est à ceux qui dirigent, cher ami.
Merci Alain Botoko. Brunel Kachi, commençons avec vous par où a terminé Alain Botoko. À qui la faute selon vous? Avez-vous l'impression que ce forum de haut niveau sur les réformes qui est suspendu pour le moment à Kinshasa est utilisé par l'extérieur pour infiltrer la RDC et a exclusivement été organisé notamment pour encourager la Mouka?
Jamais. Je ne serai jamais pessimiste jusqu'à ce point. Je sais très bien, cher confrère, que la spécialité des hommes congolais que nous sommes, c'est prêter d'intention. Je suis un peu désappointé par les allégations, bien sûr, des uns et des autres, qui pensent, bien sûr, nager, je ne sais pas moi, dans la perspicacité qui a une autre forme. J'ai bien entendu le professeur Bob Kabamba, qui a bien explicité, et d'ailleurs, j'étais en train de chercher, de multiplier des efforts pour que je puisse parvenir à la compréhension digne et parfaite de l'objectif ou des objectifs de ces forums dits de haut niveau. À savoir, lui-même nous a fait savoir que l'objectif premier, c'est recadrer les prochains cycles électoraux qui pointent à l'horizon, et qu'il vise, c'est-à-dire ces forums, à obtenir un consensus entre les principales forces politiques du pays sur les grandes options de la réforme électorale. Vous êtes en savoir que nous sommes dans un pays où la population est déjà éduquée, pour ne pas dire mal éduquée, à ne plus faire confiance aux élections. D'où il est plus important que les politiques se mettent autour d'une table et puissent se mettre d'accord concernant ou sur les questions concernant la légitimité et l'acceptation des bien fondés de ces élections.
Mais Brunel,
pour le Congo,
Brunel, est-ce que cet argument est suffisant? Est-ce que cet argument est suffisamment crédible Quant à côté de ce qui est dit, hein, officiellement, on peut s'interroger aussi sur une certaine précipitation qui a été observée dans l'organisation de ce forum. D'ailleurs, l'organisateur dit le forum est suspendu pour raison d'inclusivité. Et j'en viens à ma deuxième question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas eu plutôt précipitation, mauvaise organisation de ce forum? Et justement, est-ce qu'il ne faut pas soupçonner quelque chose quand on sait que, par exemple, d'autres acteurs politiques ont fait la même demande, font les mêmes réflexions sur le même thème depuis plusieurs semaines, notamment le groupe de 12 qui consulte? Pourquoi l'organisateur de ce forum de haut niveau n'a pas ou ne s'est pas coalisé avec d'autres réflexions antérieures pour justement mettre quelque chose de consensuel en place?
Voilà, chers confrères, vous pouvez tout simplement comprendre qu'ici, il est question de tout risquer pour défendre un mensonge. Vous avez suivi dans les allégations de notre estimé, compatriote Bob Kabamba, qui nous a fait savoir qu'il y avait l'entendement où il s'était engagé dans cette lignée de pouvoir, parler avec toutes les parties prenantes, mais aussi ils ont eu le temps de préparer ces forums, raison pour laquelle différentes parties prenantes ont été signifiées d'avance. Mais au moins la question qui divise ici, parce que il y a peut-être, il faut à un certain moment élaguer certains malentendus autour de cette question. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un élément inapproprié, d'autant plus que il est réalisé en dehors des cadres institutionnels reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais je suis en train de rappeler ici une chose, parce que en le suivant, celui-ci a fait savoir que c'est un forum technique qui travaille sur des questions techniques de la CENI et la loi électorale. Enfin, les conclusions vont être déposées à l'Assemblée nationale pour l'approfondissement.
Comment pensait-il que, par exemple, le FCC pouvait être dans ce forum? Le FCC a dit des semaines bien longtemps avant qu'il ne participerait jamais, au grand jamais, à des réflexions en dehors du cadre institutionnel. Il le savait.
Chers confrères, nous pouvons nous mettre en tête que le Front commun pour le Congo ne peut en aucun cas être partant, d'autant plus qu'il sait que ce sont ses intérêts qui sont en jeu.
Merci Brunel. Sur cette question, vous avez un peu rejoint vers la fin la même analyse qu'Alain Botoko tout à l'heure. Le débat va continuer sur cette question et notamment, vous pourriez, chacun à votre tour, dire un petit mot au moment des conclusions, s'il y a encore des matières à ajouter. Certains d'entre vous ont un peu évalué déjà le travail du gouvernement, hein, parlant de notre premier thème. Notre deuxième thème, justement, permettre d'approfondir un peu l'analyse du travail du gouvernement, car le gouvernement actuel de la RDC a totalisé mercredi une année d'activité depuis son investiture par le Parlement. Selon le porte-parole du gouvernement qui a organisé une conférence de presse pour présenter à la nation le bilan que le gouvernement Ilunga Ilunkamba fait lui-même de ses 12 premiers mois de travail, des avancées ont été enregistrées, mais des défis énormes restent à relever, parmi lesquels la paix qui n'est pas encore totale, les besoins sociaux de base de la population pas entièrement satisfaits, le chômage encore endémique, la stabilité de la monnaie qui reste toujours une quête. Écoutons le porte-parole du gouvernement sur le volet éducation et justice, Jolino Makilele au micro de Paul Matendo.
La justice est en train de retrouver ses lettres de noblesse dans notre pays avec l'avènement d'un état de droit tel que consacré dans notre constitution et affirme dorénavant son indépendance avec jalousie. Si hier nous assistions à une justice du plus offrant et que les procès et jugements s'est négociés comme aux enchères, aujourd'hui l'appareil judiciaire de notre pays devient de plus en plus le bouclier de la société contre les antivaleurs et autres comportements déviants, même si tout n'est pas encore parfait dans sa pratique. Sur le plan de l'éducation, consécutivement à la vision du chef de l'État de placer l'homme au centre de toute action, l'enseignement de base a été effectivement rendu gratuit sur l'ensemble du pays et le chef de l'État a concrétisé ainsi un prescrit de l'article 43 de notre Constitution jamais mis en œuvre jusqu'à ce jour.
Jean-Pierre Kayembe, vous avez beaucoup de casquettes et je vais essayer de résumer, gestionnaire de médias et producteur de contenu médiatique. Jean-Pierre Kayembe, au-delà de ce que le gouvernement Ilunga Ilunkamba lui-même fait comme bilan de ses 12 premiers mois de travail, Quel est le bilan que vous vous feriez à ce stade de l'an 1 du travail de ce gouvernement?
Merci Donan. J'ai entendu les amis faire des proclamations. Alain, s'il ne sait pas combien de lois ont été apportées, ont été votées au Parlement, il n'a qu'à s'intéresser à se rendre au palais du peuple pour comprendre ce qui ne va pas. Mais au fait, au fond, moi je ne comprends pas qu'on... Pour revenir au premier thème, parce que je voudrais rapidement dire quelque chose. Je vois par exemple l'ambassadeur américain qui s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe chez nous, sur nos élections, alors qu'il y a des élections qui profilent chez lui, à l'horizon. Il n'en parle pas, mais il est trop intéressé. Moi, je ne sais pas s'il a maintenant un autre bureau à la cité de l'OEA, mais si tout dépendait de moi, monsieur Mike Hammer devrait être expulsé de notre pays pour ingérence à outrance. Le gouvernement est arrivé dans les contextes que nous connaissons tous, un contexte de défiance entre l'ancien pouvoir et le nouveau. Les deux, ils se regardaient en chef défaillance dans un passé récent. Ils sont obligés légalement par la Constitution, parce que l'un a gagné la présidence, l'autre a gagné la majorité parlementaire, et cohabiter. Donc, les quelques tergiversations auxquelles on a assisté, parce que s'il faut établir un bilan, je ne sais pas s'il en existe un. Hein. S'il en existe, c'est qu'il est négatif, parce que vous avez vous-même épinglé la dépréciation continue de notre monnaie. Le social tant promis par le président Tshisekedi n'est pas arrivé. Je pense que certains vont se cacher derrière la Covid, mais avant la Covid, la situation était ce qu'elle est. Une année après, je vis par exemple que le président Tshisekedi et son prédécesseur, M. Kabila, ont pris conscience. Je veux qu'ils ont écarté tous les faucons qui étaient au sein du comité de suivi, qui ne permettaient pas des bonnes résolutions. Parce que toute cette année, on a assisté à des bras de fer entre le président et le gouvernement. Le président qui voulait faire le tout pour tout, oubliant qu'il est en train de cohabiter, oubliant qu'il n'a pas la totalité du pouvoir. Et certains de ses collaborateurs ont essayé de l'induire en erreur, notamment aussi certaines officines à l'international. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que une année après, il y a nécessité de remanier ce gouvernement, parce que vous allez constater que certains ministres, c'était pour la première fois qu'ils découvraient la gestion de la Respublica. Et d'autres n'ont pas assez de connaissances, de maturité, enfin, je veux dire d'expertise pour être là où ils sont.
Mais
ils ont été bombardés.
Mais Jean-Pierre Kayembe, est-ce que ce n'est pas un peu sévère de conclure, hein, peut-être que vous allez nuancer dans l'évolution, de conclure que le bilan est négatif? Je vais essayer de vous donner quelques éléments qui peuvent peut-être être la nuance qu'il faut apporter. Ça fait 12 mois que ce gouvernement travaille dans les conditions difficiles que vous avez évoquées, hein, deux camps politiques qui ne s'aiment pas et qui se mettent les bâtons dans les roues tout le temps, et même au moment où nous sommes en train de parler, j'imagine, mais qui arrive à réaliser quand même plusieurs centaines ou plusieurs dizaines d'écoles de construite ou de réhabilité, 40 millions d'élèves non scolarisés autrefois qui sont aujourd'hui scolarisés grâce à la gratuité, tous les enseignants du public, hein, selon les informations en notre possession, ça peut être une erreur, sont payés par l'État, ce qui n'était pas le cas depuis beaucoup d'années, et une visibilité par exemple diplomatique qui est un peu meilleure qu'il y a quelque temps, et surtout la justice qui commence à prendre de manière indépendante certaines initiatives de nettoyage, du respect de la justice et des lois de la République. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi je vous ai dit au début que je présente une émission à téléphone ouvert. J'ai des enseignants qui m'appellent, des nouvelles unités qui n'ont toujours pas été mécanisées. Le médecin, n'en parlons pas. On ne peut pas parler de nos militaires qui étaient... Enfin, je veux parler des médecins du corps médical qui étaient au front contre la Covid.
Mais pensez-vous...
Mais quand vous parlez des écoles réhabilitées...
Pensez-vous que les individus...
Ou construites, ou en dehors d'une école que je connaissais ici à Lemba Mokendeli ou une autre au Kanchati. Je pense que globalement, ce gouvernement n'a pas été à la hauteur des attentes, parce que Nous avons l'impression que rien n'a changé.
Oui,
le panier de la majeure est ce qu'il est.
Je vous rappelais tout à l'heure qu'ils ne sont là que depuis 12 mois. Est-ce que ce n'est pas trop peu, justement, pour éventuellement être plus sévère que ça, hein? Et je ne vous ai donné que quelques exemples, mais le ministre lui-même
C'était un gouvernement d'émission.
A lu cinq pages de réalisation.
Et on a l'impression qu'il a démérité. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, la crise sécuritaire de notre pays s'est accentuée?
ce qui se passe à Lubumbashi, ce qui se passe à Ituri, pas plus tard qu'il y a 48 heures, on venait de tuer 9 personnes, ce qui fait un total de 43 personnes dans l'intervalle seulement de 2 jours. Mais le président a promis la protection, il a promis la sécurité, il a même promis d'aller diriger son quartier général au Kivu une fois élu. Donc nous nous pensons que ça fait 2 ans déjà qu'ils ont consommé, ils n'ont plus que 3 ans. Donc la justice à laquelle on a affaire maintenant, donc on nous dit état de droit,
merci.
Je pense qu'il y a encore
merci.
Un parcours à réaliser.
Merci Jean-Pierre Kayembe. Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant évoluant à Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe tient mordicus que le gouvernement actuel a fait 2 ans, mais entre le 26 août 2019 et le 26 août 2020, ça fait quand même une année, hein, 12 mois. Alain Botoko, est-ce que vous avez le même avis que Jean-Pierre Kayembe, un échec du gouvernement Ilunga Lunkamba?
Oui, Donald, laisse-moi d'abord revenir au propos de Jean-Pierre Kayembe de tout à l'heure. Là. Moi, je suis journaliste.
Alain Botoko, est-ce que vous pouvez aller sur le deuxième thème directement, sinon on ne fera qu'un seul thème.
Justement, j'y vais directement. Je lui dis seulement qu'il aille à l'Assemblée nationale et il verra que le bureau du premier vice-président est scellé et qu'on ne sait pas ce qu'est devenu son personnel. Et il sait que notre constitution, toutes nos lois disent qu'il y a la continuité de l'État. Donc, il sait que les assistants de l'Assemblée nationale ne sont pas notifiés, n'ont aucune décision, ils sont à l'air. Donc,
alors, Ilunga Ilunkamba et son gouvernement ont-ils échoué ou pas?
Oui, il faut dire que c'est une première, cette cohabitation entre le FCC et le CACH était un apprentissage très complexe. Le gouvernement a pris trop du temps à s'installer et ils ont commencé un peu timidement. Mais je crois qu'avec cette crise de Covid qui est en train de se dessiner dans le pays, il y aura une crise sociale, une crise économique. Et je crois qu'il faut une belle vision pour pouvoir changer certaines choses. Le gouvernement a fait quelques réalisations. Moi, je suis en train de voir ici l'impulsion que le chef de l'État a donnée du côté de la justice. Et je crois que si une justice est debout, je crois que le reste des secteurs vont se relever. Et il y a de bons jours qui nous attendent demain s'il y a effectivement prise de conscience.
Mais Alain Botoko, est-ce que ce n'est pas un peu facile de se cacher tout le temps derrière le coronavirus? On sait que dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les 10 000 personnes contaminées et qu'à peine, s'il y a encore des gens qui sont infectés aujourd'hui, ils ne dépassent pas 1 000 personnes selon les données statistiques officielles. Gombe, une seule commune a été confinée et tout le reste de Kinshasa et des autres provinces sont restées actives. Pourquoi toujours se cacher derrière le coronavirus?
Non, moi je ne me cache pas. En fait, je ne défends pas le gouvernement. Les réalisations sont visibles dans l'assiette du Congolais. Si l'assiette est vide, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Et je crois qu'ils doivent travailler durement ceux qui sont au gouvernement. Mais moi, en tant que journaliste, en tant que reporter, moi je donne des conseils. Je voudrais que demain, après-demain, les choses aillent mieux. Vous parlez de cette pandémie. Alors, c'est vrai que tout le monde ne s'attendait pas à cette pandémie. Elle est arrivée au moment où les choses commençaient déjà à prendre de l'allure. Mais bon, écoute, est-ce que c'est une excuse? Non, ça ne doit pas être une excuse. C'est une occasion d'ailleurs de se réveiller, de travailler encore dur. Et moi, je vis effectivement qu'il y a un avancement clair et net sur le plan de la justice, sur cette volonté de changer les choses. Et quand il y a une justice, je crois que les choses vont se rétablir. Ça, c'est...
Alain Botoko va certainement nous revenir. Brunel Kati, journaliste à Yalisa Télévision et mettant de Kolwezi, province du Lualaba. Pour vous, le gouvernement n'aurait-il pas pu faire mieux, peut-être mettre fin à l'insécurité grandissante toujours à l'est du pays et peut-être offrir à la population des meilleures infrastructures?
Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, la construction ou soit, je vais dire, le développement d'un État est toujours progressiste, donc en quelque sorte, ces temps-ci. Mais au moins, dans les cas échéants ou dans les cas présents, vous constatez avec nous ensemble que c'est un bilan tout à fait mitigeux, bien que les différentes raisons sont présentées, un peu comme pour dire que c'est à cause du coronavirus que tout a été bloqué. Je me dis tout simplement que c'est ça la conséquence de venir faire les tourisme au sommet de l'État. Parce que si vous constatiez récemment, il n'y avait le plus important que tourner, nager dans des polémiques et dans des bévues qui n'avaient aucune importance pour la population. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la montre n'était pas en train de les atteindre. Et aujourd'hui, la population est en train d'évaluer ce qu'ils ont fait. Parce que quand on nous parle aujourd'hui de l'État des droits, l'État des droits ne veut pas dire que Vital Kamerhe est en prison. L'État des droits voudrait dire tout simplement l'observance stricte de la règle du droit. C'est ça. Et tout le monde, les gouvernants et les gouvernés, tout le monde est soumis devant la règle du droit. Est-ce que c'est ce qui s'est dit en République démocratique du Congo? Chacun de nous a des yeux, excepté ça, une autre des choses. L'on parle de la gratuité de l'enseignement et autres, mais lui-même, Ilunga Ilunkamba, il fait partie de la famille politique qui ne cesse de critiquer négativement cette action du président de la République et dire comment est-ce que c'était une action qui n'a pas été préparée. Les conséquences sont telles qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui vous pleurnichent ça et là, pour cause, ils sont gravement impayés. Il y a de nouvelles unités qui ne sont pas encore mécanisées jusque-là. Est-ce que le gouvernement sait au moins de quelle manière ces gens sont en train de manger avec leur famille ensemble? Revenez ici à l'intérieur de la province de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est plus qu'une scène de l'insécurité, les grands Katanga tout entier. Est-ce que réellement il y a la présence de l'État qui s'est fait sentir? Ce sont les grandes questions qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est comme ça que je suis en train de me dire tout simplement que, au nom de l'honnêteté politique, le Premier ministre s'est remis aujourd'hui de présenter ses excuses à la nation. On est tous là, nous sommes dans l'obligation d'être encore optimiste parce que ce n'est pas encore la fin de leur mandat. Ils doivent multiplier des efforts pour qu'ils puissent arriver à nous fournir un travail de qualité. Voilà que nous attendons d'eux, chers confrères.
Merci Brunel Kati. Peut-on dire en un mot, et puisque nous sommes en train de conclure cette émission, peut-on dire en un mot qu'après les 12 premiers mois que vous avez évalués de votre manière, la RDC est plutôt sur une bonne voie ou plutôt sur une pente dangereuse?
Non, non, nous sommes encore sur une pente dangereuse, d'autant plus que la coalition au pouvoir ne sait pas se mettre d'accord sur son vouloir, parce que vouloir une chose est son contraire, d'autant plus qu'elle est là en train de travailler, elle s'est dit travailler pour l'intérêt de la population, mais quand nous voyons de la manière dont elle est en train de diriger, il y a vraiment lieu de conclure ici qu'elle n'était pas encore fixée des objectifs réels pour arriver à répondre d'une manière claire et manifeste aux besoins de la population. Et donc, il est temps aujourd'hui de rectifier la gestion de la chose publique. Il y a des règles et des principes qu'il faut strictement observer. Faute de quoi, en tout cas, je crois que ça va être un deuil populaire et national pour cette population qui est en train d'assister du jour le jour, disons, au début dont les metteurs en scène sont bien sûr les dirigeants actuels, lesquels prétendent avoir la volonté de servir la population congolaise, alors qu'il fait le contraire dans leurs pratiques.
Merci Brunel Kati. Alain Botoko, en guise de conclusion, que peut-on, en un mot, trois mouvements, retenir des deux thèmes de ce soir?
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement devait prendre conscience, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et c'est pour cette raison qu'il y a naissance de groupes de 13, groupes de 12, groupes de 9, mais aussi ce fameux forum. Donc, ils doivent prendre les choses à la main. Les gens de FCC et de CACH doivent se dépasser, diriger le pays, parce que demain, après-demain, quand je sais qu'il y a des réussis, donc c'est tout le monde, et tout ce qui allait être réélu pour le mandat qui arrive, et si il échoue, donc le chèque serait pour eux. Et il y a d'autres qui sont en train, effectivement, de se préparer pour prendre la place. Il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils cessent les disputes, de passer du temps ils se contrôlent les uns les autres. C'est pas comme ça qu'on gère le pays. Il faut le gérer avec intelligence, avec la sagesse et avec des objectifs qu'il faut atteindre.
Merci Alain.
Merci
Alain Botoko. Jean-Pierre Kayembe, votre mot de conclusion.
Il faut absolument changer ce gouvernement. Il faut mettre les radicaux de côté et faire appel à ceux qui viendront servir le pays. Il faut réduire sa taille.
réduire aussi les services qui sont autour du président parce qu'ils sont tellement nombreux au point qu'ils nous ont coûté jusqu'à 17 millions de dollars rien que pour le mois de juillet. Il faut revoir le rendez-vous des institutions, privilégiées le plus important. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, au-delà du social, c'est la sécurité parce que je sens que la menace de balkanisation de notre pays se précise chaque jour qui passe.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Bob Landou, Kéline Koutegui-Mathié et Axel Gontio m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse est finie pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.